France Inter.
Laura Dulieu, bonjour Laura.
Bonjour. Nous reviendrons évidemment sur cette attaque de l'Iran contre Israël. Attaque déjouée selon l'État hébreu qui affirme que 99% des tirs iraniens ont été interceptés. Tous les espaces aériens de la région sont fermés, dont celui du Liban où le Hezbollah annonce avoir lancé une deuxième salve de roquettes cette nuit en direction d'Israël. Nous parlerons aussi de ce sondage d'Ipsos réalisé pour France Inter et Le Parisien, dans lequel le Rassemblement National arrive largement en tête des intentions de vote pour les élections européennes, loin devant la majorité présidentielle. Dans ce journal également, le MeToo hôpital lancé par le témoignage de Karine Lacombe et les basketteuses de Villeneuve-d'Ascq aux portes de l'exploit en finale de l'Euroleague.
Et à 7h50, une question qui nous concerne ou nous concernera toutes et tous, celle de la fin de vie. Le projet de loi gouvernementale sur le sujet vient d'être présenté. Il prévoit d'autoriser le suicide assisté. On en parle avec le président du Comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfrécy.
France Inter.
À moins de 2 mois maintenant des élections européennes, le Rassemblement National fait la course en tête, tandis que la majorité présidentielle, elle, patine en deuxième position, suivie de très près par la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann. Voilà le podium des intentions de vote pour le scrutin du 9 juin. Selon notre premier sondage Ipsos pour France Inter et Le Parisien qu'on vous révélait hier, la liste de Jordan Bardella est ainsi créditée de 32% des voix et loin derrière à seulement 16%. Il y a Valérie Ayé, puis Raphaël Glucksmann à 13% des intentions de vote. Alors si l'élection avait lieu aujourd'hui, le RN arriverait donc largement en tête. Alors qui sont ces électeurs, Claire Fauchel?
L'effet Bardella sur cette campagne européenne se poursuit, s'accentue même et il rassemble. Son électorat est en effet plutôt large. Parmi les sondés qui se disent certains d'aller voter et qui le plébiscitent, il y a autant d'hommes que de femmes. 44% sont des ouvriers, mais il y a aussi 36% de professions intermédiaires et plus d'un quart des retraités interrogés. Mais le président du RN a attire également les jeunes. Une personne de moins de 35 ans sur 3 qui ira voter veut mettre un bulletin Bardella dans l'urne. Aucun autre candidat ne fait mieux dans cette classe d'âge. Selon le sondage, il capte aussi 19% des électeurs qui ont voté Valérie Pécresse à la dernière présidentielle et plus surprenant, 11% de ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Les trois sujets essentiels pour ces potentiels électeurs de Jordan Bardella sont en premier lieu et sans surprise l'immigration, en deuxième position le pouvoir d'achat et enfin la sécurité.
Et autre enseignement de ce sondage, Valérie Ayé et deuxième, mais un gouffre la sépare de Jordan Bardella, un gouffre de 16 points et elle n'a que 3 points d'avance sur le troisième Raphaël Glucksmann. Comment l'expliquer, Claire?
Alors, plusieurs facteurs. Depuis 2022, des réformes emblématiques et importantes comme les retraites et l'immigration ont été menées. Elles ont pu crisper une partie de l'électorat macroniste, celui de centre-gauche. Selon le sondage, presque un cinquième de l'électorat d'Emmanuel Macron en 2022 voterait ainsi pour la liste de Raphaël Glucksmann pour les européennes. Il y a aussi une difficulté d'incarnation. On voit dans l'enquête que Valérie Ayé est très mal identifiée. Plus de 6 Français sur 10 ne la connaissent pas. Et parmi ceux qui l'identifient, seuls 12% ont plutôt une bonne opinion d'elle. On remarque d'ailleurs que c'est un critère important. Parmi ceux qui sont le moins connus, il y a la tête de liste du PCF Léon Desfontaines, crédité de 3% des intentions de vote. Et Marie Toussaint, la candidate écologiste à la peine, 7% des voix. Elle perd 1,5 point par rapport au mois de mars.
Merci Claire Fauchel. Et vous pouvez retrouver le détail de ce sondage sur franceinter.fr.
7h35, Israël affirme que l'attaque iranienne a été déjouée.
Plus de 200 drones et missiles lancés cette nuit par Téhéran. 99% ont été interceptés selon l'État hébreu. Une attaque baptisée « Promesse honnête » en riposte à l'attaque il y a 2 semaines du consulat iranien à Damas en Syrie. Attaque attribuée à Israël. Les sirènes ont donc retenti cette nuit à Jérusalem. Les États-Unis réaffirment leur soutien inébranlable à Israël, tandis que Joe Biden convoque les dirigeants du G7 aujourd'hui. Israël annonce rouvrir son espace aérien à l'instant. Celui de l'Irak, la Jordanie et du Liban sont toujours fermés. Le Liban, d'où le Hezbollah allié de l'Iran, annonce une nouvelle salve de roquettes sur l'État hébreu. Bonjour Noé Pignade.
Bonjour à tous.
En direct depuis Beyrouth, Noé, c'est la deuxième salve de la nuit lancée par le Hezbollah libanais.
Oui, à l'aube, le Hezbollah a lancé des dizaines de roquettes sur 3 bases militaires israéliennes en soutien à son parrain iranien. Vers 2h du matin, 2 explosions au moins ont aussi retenti dans le ciel de Beyrouth. Plusieurs détonations également dans la région de la Bekaa, à l'est. Pour le moment, pas plus de précisions sur l'origine de ces frappes aériennes au Liban. En Syrie, en revanche, des explosions similaires ont été entendues au-dessus des villes de Damas, Homs et Hama. Et là, une ONG et des médias locaux assurent que c'est le système de défense anti-aérien du régime syrien qui a frappé, activé au départ contre des potentielles frappes israéliennes. Il aurait automatiquement intercepté plusieurs missiles de son allié iranien qui survolait la Syrie en direction d'Israël. Enfin, au sud du Liban, où les affrontements sont quotidiens entre l'État hébreu et le Hezbollah depuis octobre, la tension monte encore d'un cran. Il y a quelques heures, l'aviation israélienne a bombardé plusieurs villages frontaliers. Selon un premier bilan, il y aurait au moins un mort et 5 blessés.
Noé Pignède, merci, correspondant de France Inter à Beyrouth. Et du côté de Gaza, les services de renseignement israéliens affirment que le Hamas a rejeté le dernier projet de trêve, celui mis sur la table il y a une semaine par les médiateurs. Tandis que le sort des Gazaouis inquiète toujours les ONG, et notamment le sort des journalistes, qui continuent, malgré les circonstances, à faire leur travail dans l'enclave palestinienne. Le directeur adjoint de Reporters sans frontières signe une tribune dans le journal Le Monde pour demander à la communauté internationale de soutenir les reporters qui souhaitent quitter ce territoire. Ils sont plusieurs à avoir pris contact avec l'ONG en vain. Écoutez Thibaut Brutin.
Ça passe par des contacts diplomatiques à très haut niveau pour obtenir l'accord des différentes parties prenantes qui peuvent autoriser la sortie de Gaza. Ça passe aussi par des processus de vetting, c'est-à-dire de validation des personnes qui souhaitent être mises en sécurité et des procédures de visa accélérées et simplifiées pour que, évidemment, dans une circonstance qui est celle d'une crise humanitaire d'une très très grande ampleur, on ne se perde pas dans des arguties bureaucratiques et qu'on garde l'essentiel de ce qui doit être entrepris, c'est-à-dire mettre en sécurité des journalistes qui payent un tribut très très lourd, sont épuisés physiquement et psychologiquement et continuent néanmoins à remplir leurs fonctions. Ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une priorisation à l'avenir de la mise en sécurité des journalistes palestiniens qui ont payé un très lourd tribut pour nous informer tous collectivement.
Thibaut Brutin, directeur adjoint de Reporters sans frontières. Selon l'ONG, 103 journalistes au moins ont été tués depuis le début depuis le 7 octobre, il y a 7 mois. Son témoignage est à l'origine d'une vague MeToo à l'hôpital. Dans une interview à Paris Match cette semaine, l'infectiologue Karine Lacombe accuse l'urgentiste Patrick Peloux de harcèlement sexiste et sexuel. Il s'agit du président de la Fédération des médecins urgentistes, habitué des plateaux télé. Et pour la première fois, Karine Lacombe s'exprime sur une radio depuis le Festival du Livre de Paris où elle dédicaçait son livre « Les femmes sauveront l'hôpital, une vie de soignante ». Julien Morcelli l'a rencontré.
Depuis ses révélations dans la presse, Karine Lacombe dit avoir reçu des dizaines de signalements de potentielles victimes.
Énormément d'emails, énormément de messages téléphoniques, de SMS, de personnes qui dénoncent justement des faits semblables, plus ou moins dus aux mêmes personnes. Donc on va voir, on est en train de trier, de remonter les sources. S'il y a des choses qui dépendent du pénal, on orientera ces personnes-là vers les bonnes juridictions pour faire des propositions pour faire changer ça.
Si Karine Lacombe ne souhaite pas porter plainte contre Patrick Peloux, elle n'hésite pour autant plus à le nommer pour dénoncer son comportement en 2003 lorsqu'elle était interne à l'hôpital parisien Saint-Antoine.
Je pense qu'à un moment, il est aussi important de mettre des visages sur ce qui se passe. De la part de Patrick Peloux comme de la part d'autres médecins, hein, c'est des mains baladeuses. Mais en fait, si vous voulez, de façon plus globale, c'est vraiment une atmosphère générale dont certains ont pu dire que c'était de la grivoiserie, mais finalement c'était pas de la grivoiserie, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas le consentement des femmes avec qui ça se passait, c'est pas juste un amusement entre adultes.
Karine Lacombe évoque ici la réaction de Patrick Peloux qui a admis un comportement grivois tout en démentant l'ensemble des accusations portées à son encontre.
Il y aura 1 000 000 d'internes en médecine en moins en 2024 à cause d'un accident de parcours lié à la réforme en cours de leur formation. Pour la première fois cette année, les étudiants doivent soutenir une épreuve orale pour le concours de l'internat. Une partie a donc décidé de redoubler sa 5e année pour ne pas essuyer les plâtres de cette première épreuve. On termine avec du basket et Villeneuve d'Ascq aux portes de la gloire. Les basketteuses disputent ce soir la finale de l'Euroleague à Mersin en Turquie. Et elles vont devoir réaliser l'exploit après leur victoire en demi-finale contre les Tchèques de Prague. Et pour cause, elles s'apprêtent à défier la crème de la crème du basket européen. Les Turques de Fenerbahçe, tenantes du titre et victorieuses de 53 de leurs 55 matchs cette saison. Villeneuve d'Ascq va donc tenter d'écrire une nouvelle page de son histoire en allant chercher un troisième trophée après le titre national de 2017 et l'Eurocoupe en 2015, Sylvain Charlet.
Le SBVA espère rejoindre ce soir dans l'histoire du basket nordiste l'USVO, l'Union Sportive Valenciennes Orchi, vainqueur de l'Euroleague en 2004. L'entraîneur villeneuvois, Rachid Méziane.
Ça faisait 20 ans qu'une équipe n'avait pas joué une finale d'Euroleague, 10 ans qu'une équipe n'avait pas participé en quart de finale. On met Villeneuve d'Ascq sur la carte mondiale aujourd'hui parce qu'on a les meilleures joueuses de WNBA, les meilleures joueuses d'Europe qui participent à ce tournoi-là. Donc forcément, ça va faire parler de nous. On était clairement les outsiders.
Et ce statut d'outsider, le SBVA l'aura toujours face aux Turcs de Fenerbahçe, championne d'Europe en titre et vainqueur de 53 de leurs 55 matchs cette saison. L'intérieur, Kariata Diaby.
Après Fener, je pense qu'elles vont nous craindre un petit peu. Je pense qu'elles ont regardé un petit peu le match. Mais voilà, on sait qu'on va jouer contre une très belle équipe, une grosse écurie. Et voilà, nous, on va faire ce qu'on sait faire comme d'habitude. Et voilà, on va jouer le match à fond. Et quoi qu'il arrive, nous, on a fait le taf.
Kariata Diaby qui sait pouvoir compter sur le soutien de ses supporters qui pourront vivre gratuitement ce match sur grand écran au Palatium à Villeneuve d'Ascq. Ouverture des portes à 15h30.
Et Villeneuve d'Ascq, Fenerbahçe, coup d'envoi de la rencontre à 18h.
C'était le journal de Laura Dulieu. À suivre le débat Glucksmann, PS et Bellamy LR dans l'édito politique et la diva Amy Winehouse au générique de la chronique. On va en reparler.